Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous en sommes à commentaire de Saint Matthieu, chapitre 11, verset 16, dans le fichier, donc des chapitres 11 à 15 de Saint Matthieu à la page 4, si vous préférez travailler directement à partir du polycopier général que vous avez aussi sur le site, c'est à la page 107. Donc Saint notre Seigneur Jésus-Christ va parler de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste est un saint extraordinaire parce que il a annoncé notre Seigneur Jésus-Christ, mais au moment précis où notre Seigneur Jésus-Christ est apparu, Saint Jean-Baptiste va se retirer. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est une phrase magnifique qui est tellement difficile pour nous à mettre en pratique pour chacun d'entre nous. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est-à-dire que ma volonté propre diminue, que la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ augmente. Toute ma vie spirituelle, c'est un combat terrible, si vous voulez, entre d'une part ma volonté propre, d'autre part la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et 9 fois sur 10, il y a une opposition farouche entre ces deux volontés. Je me rappelle plus quel est le saint religieux qui avait dit, en parlant de son noviciat, lorsqu'il était rentré en vie religieuse. Il avait dit, il y a eu un grand combat dans ma cellule. Et j'ai dû en mettre il y a eu un grand combat entre deux personnes et j'ai dû mettre une de ces deux personnes par la fenêtre. Cette personne que j'ai dû jeter par ma fenêtre, c'est ma volonté propre. Comme il est difficile pour nous de mettre cela en pratique, très souvent nous voulons bien suivre notre Seigneur Jésus-Christ à condition de rester dans son ombre. Mais souvent notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de passer par le creuset de l'humilité pour justement laisser de la place à notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde moderne dit constamment, nous ne voulons pas que cet homme, Dieu roi, Christ roi, règne sur nous, qu'il soit crucifié. Le catholique au contraire dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Oh mon Dieu, venez prendre ma volonté propre. Prenez ma volonté propre, prenez pas simplement tout ce que j'ai, parce que c'est relativement facile de donner ce que j'ai, mais donnez ce que je suis. Et on le voit avec Saint Jean-Baptiste. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va faire des miracles extraordinaires. Saint Jean-Baptiste va faire ce qu'il a fait des miracles, c'est possible, mais on n'en parle pas dans l'Évangile. Donc il ne fit éclater son austérité de sa sainteté que par l'austérité de sa vie et l'amour de la justice, alors que notre Seigneur Jésus-Christ, lui, avait le témoignage des miracles. Et donc Saint Jean-Baptiste amène à notre Seigneur Jésus-Christ. On peut donc comparer facilement le rôle de Saint Jean-Baptiste avec le rôle de notre Sainte Vierge Marie. Ils ont un peu le même rôle sur certaines choses. Les deux, notre Sainte Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste, amène notre Seigneur Jésus-Christ aux âmes, ou plus exactement, amène les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, disent les pères, va donc laisser Jean-Baptiste briller par le jeûne et il suivit une voie différente en ne refusant pas de s'asseoir à la table des publicains pour manger et boire avec eux. Si le jeûne vous est agréable, pourquoi Jean-Baptiste ne vous plaît-il pas? Si la vie ordinaire a pour vous plus d'attrait, pourquoi le Fils de l'homme ne peut-il vous plaire? Pourquoi avez-vous traité l'un de possédé et l'autre d'ivrogne et d'intempérant? C'est le texte de Saint Matthieu, donc chapitre 11, versets 16 à 19. Mais à qui comparerai-je cette génération, dit notre Seigneur? Elle est semblable à des enfants assis sur la place publique et qui, criant à leurs compagnons, leur disent « Nous avons chanté pour vous, vous n'avez pas dansé. Nous avons poussé des lamentations, vous n'avez pas pleuré. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il est possédé du démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent « Voici un homme vorace et un buveur de vin, un ami des publicains, des pécheurs, mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. » Ce sont des critiques qu'on entend régulièrement dans le monde moderne, surtout dans le milieu sédévacantiste. Il est très facile de faire une comparaison entre ce que disait notre Seigneur Jésus-Christ et ce que disent beaucoup de sédévacantistes qui, encore une fois, qui veulent servir notre Seigneur Jésus-Christ, mais dans l'orgueil. On ne peut pas servir notre Seigneur Jésus-Christ dans l'orgueil. Donc, on a l'impression, parfois, en écoutant certains, qu'on ne fait jamais les choses comme il faut. Jamais les choses comme il faut. Et donc, si on tourne à droite, ils vont nous dire, ah non, il fallait tourner à gauche. Si on tourne à gauche, ils vont dire, non, il fallait tourner à droite. Si on monte, ils disent, ah non, monsieur l'abbé, il fallait descendre. Si on descend, ils vont dire, non, il fallait monter. Il y en a qui sont jamais contents. Soit le sermon est trop court, soit le sermon est trop long, mais bref, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est s'éclipser, laisser ce fidèle qui se prend pour la cuisse de Jupiter, prendre le contrôle de tout ce que nous faisons, et tout notre apostolat. Comme il est important, mes bien chers frères, de penser à cette vertu d'humilité qui est tellement importante. Vous savez, il ne faut pas croire, contrairement à ce que beaucoup pensent, qu'à partir du moment où on est sédévacantiste, on va au ciel. Le sédévacantisme ne suffit pas pour aller au ciel. Vous pouvez très bien être sédévacantiste et tomber dans l'orgueil à cause de cet orgueil, aller à l'enfer à cause de l'orgueil. Donc ce n'est pas le sédévacantisme en tant que tel qui sauve, c'est l'amour du bon Dieu. Si vous êtes sédévacantiste jusqu'à la racine des cheveux et que vous n'avez pas l'amour du bon Dieu et pas la vertu d'humilité, à quoi vous sert votre sédévacantisme? Rien du tout. C'est les vacantistes, c'est comme une bombe qui peut être utilisée pour nous protéger contre l'ennemi, mais aussi pour nous faire sauter nous-mêmes. Pourquoi? Parce que justement, si nous tombons dans l'orgueil, le fait qu'avec la grâce du bon Dieu, nous ayons compris certaines choses que peut-être d'autres personnes autour de nous n'ont pas compris, ne doit pas nous monter dans l'orgueil, parce que ces choses que nous avons comprises, c'est simplement parce que le bon Dieu a pitié de nous, c'est tout. Et encore une fois, l'étude, la connaissance du magistère de l'Église ne suffit pas. Vous pouvez connaître par cœur tout le magistère de l'Église, vous n'êtes pas en état de grâce, vous êtes incapable de pratiquer la vertu de charité, vous n'êtes rien du tout. Si je n'ai pas la charité, nous dit Saint Paul, je suis rien. Je suis comme une cymbale, une cloche qui résonne au vent. Donc attention à cet esprit critique tellement, tellement pénible dans le milieu de la tradition, au milieu célébacantiste. Monseigneur le fait rappeler avec raison cet esprit qui est très fréquent, hélas, dans nos chapelles, le zèle amer. Le zèle amer. Avoir du zèle pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est bon. Avoir du zèle pour la vérité, c'est aussi bon. Mais avoir du zèle amer, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que le zèle est bon, mais l'amertume qui vient avec le zèle, cette espèce d'agressivité qui vient en nous, est un fruit de l'orgueil. Et l'orgueil bouche les cœurs. Dans le sens mystique, disent les pères, la prédication elle-même, on est dans la page 4 du fichier Saint Matthieu, chapitre 11 à 15. La prédication elle-même de Jean-Baptiste fut impuissante pour convertir les Juifs, parce que la loi leur avait paru pénible, difficile et gênante à cause de ses prescriptions sur les aliments, sur les boissons. Elle renfermait pour ainsi dire en elle-même le péché auquel il donne le nom de démon, parce que la difficulté que présentait son observation rendait presque inévitable la transgression. À son tour, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ ne leur fut pas agréable malgré la liberté qu'elle leur rendait, en allégeant tout ce que la loi avait de difficile et d'accablant. Ici, les pères font allusion aux règles canoniques des Juifs de l'Ancien Testament. Ils ne se sauvaient pas par les sacrements, puisqu'il n'y a pas encore de sacrements. Donc, ils allaient se sauver par toutes les règles, les coutumes établies par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, encore une fois, certains de ces Juifs, les scribes et les pharisiens entre autres, eh bien, se pensaient qu'en suivant strictement et scrupuleusement les règles données par Moïse, ils allaient aller au ciel. Mais vous pouvez suivre strictement les plus petits détails de la loi. Si vous n'êtes pas en état de grâce, si vous êtes incapable de présenter notre Seigneur Jésus-Christ pour que d'autres personnes se rapprochent de lui, eh bien, à ce moment-là, tout votre zèle devient un zèle amer, parce que l'orgueil détruit tout. C'est le Saint-Cyrédas qui compare ce zèle amer à l'écume laissée par une chenille sur les pétales d'une rose. Vous avez une rose magnifique, splendide, dans le jardin. Tout le monde la regarde. Elle est très odoriférante, elle a un parfum extraordinaire, une beauté extraordinaire. Et voilà qu'une chenille est passée sur ses feuilles, a laissé sa trace de bave gluante et dégoûtante sur les feuilles et sur les pétales de la rose. Et toute la beauté de la rose en est amoindrie. Mais c'est la même chose. Est-ce que j'ai l'humilité? Et si je n'ai pas l'humilité, mes bien chers frères, tout ce que je fais ne vaut plus rien. Donc, il est important de réaliser ces choses-là. Les publicains et les pécheurs embrassèrent la foi, disent les pères, troisième paragraphe de la page 4. Les publicains et les pécheurs embrassèrent la foi, mais pour les juifs, après tant et de si grands avertissements, ils ne furent pas justifiés par la grâce et furent abandonnés par la loi. C'est alors que la sagesse fut justifiée par ses enfants, c'est-à-dire par ceux qui ravissent le royaume des cieux par la justification qui vient de la foi, en proclamant la justice des opérations de la sagesse de Dieu, qui prive de ses grâces les esprits rebelles pour en faire part au cœur des fidèles. Donc notre Seigneur leur dit des phrases très fortes. Jean est venu, c'est Jean-Baptiste dont il s'agit, ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent, il est possédé du démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et disent, voici un homme vorace et un buveur de vin, un ami des publicains et des pécheurs. Donc, le Fils de l'homme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les Juifs ont accusé notre Seigneur Jésus-Christ d'être un homme vorace et un buveur de vin. Alors qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le fils de l'homme. Donc les pères disent que nous dansons spirituellement quand nous nous allongeons et oublions les choses qui étaient derrière. Nous atteignons celles qui sont devant pour obtenir le prix du Christ. Quand nous venons au baptême, nous devons élever nos mains et avoir nos pieds agiles pour monter vers les choses éternelles, dansant comme les associés de la foi, la compagnon de la grâce. Rappelez-vous les danses de David devant l'arche, un petit peu ce type de danse auquel les pères font allusion. Donc c'est une danse spirituelle. Cette joie justement de suivre notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait danser. Pour ça, il y a ce terme au verset 17 du chapitre 11. Nous avons chanté pour vous et vous n'avez pas dansé. Vous avez poussé des lamentations. Nous avons poussé des lamentations. Vous n'avez pas pleuré. Donc, c'est la dureté du cœur des Juifs auquel notre Seigneur Jésus-Christ fait ici allusion. Nous avons chanté les chants du Nouveau Testament, mais vous n'avez pas encore dansé, n'ayant pas encore élevé nos esprits vers la grâce. Nous n'avons pas encore dansé, n'ayant pas encore élevé nos esprits vers la grâce céleste. Nous nous sommes lamentés, mais nous n'avons pas encore pleuré. Donc, si vous voulez, ici, notre Seigneur Jésus-Christ fait allusion aux Juifs de l'Ancien Testament qui ne veulent pas passer au Nouveau Testament. Saint Jean-Baptiste s'éclipse. Il faut qu'il croisse et que je diminue, dit-il, en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup des Juifs refusent de faire ce passage, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et c'est pour cela que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va se présenter à eux comme Fils de l'homme, eh bien, au lieu de l'accepter, au lieu d'écouter sa prédication et de danser spirituellement à sa prédication, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le tuer. C'est le crime de déicide qui va les couper complètement notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et les pères font une référence à Ézéchiel, chapitre 33, verset 32. Vous êtes pour eux comme un air de musique. Ils se chantent d'une matière douce et agréable. Ils entendent tes paroles, ils ne les pratiquent pas. Alors, voyons maintenant le sens allégorique. Donc, c'est d'après saint Ambroise. Les Juifs qui n'ont pas dansé ont été abandonnés. Ils ne savaient pas comment applaudir. Les gentils alors furent appelés qui donnèrent une louange spirituelle à Dieu. C'est là une danse glorieuse des sages, la danse effectuée par David. Dans la sublimité de sa danse spirituelle, il est monté jusqu'au trône du Christ pour entendre et voir le Seigneur dire à son Seigneur, asseyez-vous à ma droite. Là, saint Ambroise fait clairement allusion à la substitution, qui est un point très important de la doctrine catholique. Je vous l'ai déjà expliqué très souvent, ce que disent les pères, qui est très important, que les Juifs de l'Ancien Testament devaient reconnaître le Messie et suivre le Messie du Nouveau Testament, qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, mais ils ont refusé, et ils l'ont tué, crucifié, le Vendredi Saint. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, voyant que le peuple élu de l'Ancien Testament refuse son témoignage, va chercher un autre peuple qui va devenir le peuple élu. C'est le peuple des catholiques. Et à la fin des temps, avec la grâce du bon Dieu, une partie du peuple juif se convertira avec la grâce du bon Dieu et reconnaîtra son maître. Alors, attention, vous voyez, c'est un petit peu le même piège qui nous tend, qui nous tente, qui tentait aussi les juifs. Nous sommes juifs, nous sommes de l'Ancien Testament, nous sommes le peuple élu, donc nous allons au ciel. Eh ben non, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé, le Messie est arrivé, ils l'ont crucifié, ils l'ont refusé. Beaucoup d'entre nous, nous sommes tentés de dire la même chose. Ah mais moi j'ai compris sur la messe traditionnelle, je suis des vacantistes, je ne suis pas l'église de Vatican II, donc je vais au ciel. Attention! Si notre Seigneur Jésus-Christ a substitué les catholiques aux juifs de l'Ancien Testament, il est parfaitement capable de substituer quelqu'un d'autre aux catholiques du Nouveau Testament, au nouveau peuple élu. Il peut y avoir une deuxième substitution, attention. C'est pas parce que, encore une fois, nous connaissons la foi catholique sur le bout des doigts ou l'écriture sainte par cœur que ça veut dire que nous allons au ciel. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui va qui entre dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Que veut dire ce terme mettre en pratique la parole de Dieu? Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est justement le faire par la vertu de charité. Si j'ai pas la vertu de charité, tout ce que je fais, qu'est-ce que ça vaut? Plus rien du tout. Alors cette vie austère, disent les pères, cette vie austère que suivait saint Jean-Baptiste, qui avait une vie pénitentielle très forte, qui ne mangeait ni ne buvait, qui se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles grillées. Cette vie austère est signifiée par la troupe de garçons se lamentant. Mais le Christ, qui vivait d'une manière moins austère, est conversé avec le monde plus familièrement et représenté par la troupe d'enfants, qui jouent de la flûte. Les scribes et les pharisiens se moquaient d'eux car ils voulaient être libres de tout reproche et leur plaisir, tout reproche de leur plaisir, de leur mode licencieux de vie. Et c'est pour ça qu'il y a cette allusion, la sagesse a été justifiée par ses enfants. Chapitre 11 de saint Matthieu, verset 19. Donc l'austérité de saint Jean-Baptiste ne fait pas tout. La preuve, c'est que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ arrive, eh bien, ceux-mêmes qui suivaient Saint Jean-Baptiste n'ont pas vu qu'il fallait maintenant passer de Saint Jean-Baptiste, qui justement s'éclipsait derrière notre Seigneur Jésus-Christ, passer de Saint Jean-Baptiste au nouveau Jean-Baptiste, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, beaucoup de gens veulent bien suivre notre Seigneur Jésus-Christ, mais à condition de ne rien avoir à changer dans la vie de tous les jours. N'oublions pas que notre première façon de prêcher, c'est par notre façon de vivre. On peut faire croire qu'on est de la vérité par notre prédication, mais notre absence de haine de l'erreur montrera bien que nous ne sommes pas de la vérité. Non seulement notre absence de haine de l'erreur montrera que nous ne sommes pas de la vérité, mais notre absence de charité nous montrera aux autres que nous ne sommes pas de la vérité. Jean, en bas de la page 4, Jean vivait dans une vie austère dans le désert. Le Christ menait la vie ordinaire des hommes pour que son affabilité attire ceux que les austérités de Jean auraient pu terrifier. Car le Christ est venu dans ce monde pour apporter à tous les hommes l'exemple parfait de l'humilité et de toutes les vertus, exemple que tous peuvent imiter dans leur rang et position sociale. Mais il est venu surtout pour que les pécheurs puissent se convertir à Dieu. Il était donc nécessaire qu'il parlât, mangeât et bût avec eux pour les attirer à l'aimer et à le suivre. Vous voyez, on voit bien là la charité incarnée de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ n'arrive pas, si vous voulez, avec le fouet et l'épée tout de suite. Il pratique cette exquise charité. Regardez par exemple la charité exquise de notre Seigneur Jésus-Christ à l'égard de Sainte Marie-Madeleine. Au moment de sa conversion, elle vient, se jette à ses pieds, pleure et suit les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses cheveux. Et en agissant ainsi, elle scandalise tout le monde parce que tout le monde savait que c'était une pécheresse et tout le monde voyait bien qu'elle était rentrée sans aucune permission dans la salle à manger qui était réservée aux hommes. À l'époque, les hommes et les femmes ne mangeaient pas dans la même salle à manger. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, qui voit le fond du cœur, lui ne juge pas sur les extérieurs, qu'est-ce qu'il lui dit ? Allez en paix, vos péchés sont pardonnés. Ne péchez plus. Donc, si notre Seigneur Jésus-Christ s'abaisse justement à manger et boire avec les pécheurs, c'est pour les attirer à lui. Et souvent, il ne peut pas attirer une âme vers lui parce que cette âme est bloquée dans l'orgueil. C'est l'orgueil qui détruit tout. Mais encore une fois, ce ne sont pas des pénitences qui font tout. C'est pas parce que quelqu'un fait pénitence que ça veut dire qu'il va au ciel, attention. Vous avez des gens qui font des pénitences extraordinaires par orgueil et qui perdent tout à cause de cet orgueil. Donc Saint Thomas et Saint Augustin ajoutent que le Christ leur montrait ainsi que ces choses n'étaient pas mauvaises par elles-mêmes, mais plutôt leur usage désordonné. Ainsi, les riches vivant religieusement dans leur richesse pouvaient également être sauvés. Vous avez des gens très riches qui sont allés au ciel? Bon, certes, c'est plus difficile de sauver son âme quand il y a trop d'argent. Notre Seigneur Jésus-Christ le dit bien, il est plus difficile pour un riche de rentrer au royaume des cieux que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Bon, vous avez on voit très bien dans l'histoire de la géographie des saints, on voit très bien comment certains très grands saints qui étaient d'un milieu social extrêmement élevé, par exemple des rois, eh bien, sont restés rois et tout en gardant un certain statut, un apparat extérieur à cause de leur dignité royale, eh bien, sous les abbés royaux, ils portaient la haie de crin et la discipline. Vous voyez donc, attention, notre Seigneur Jésus-Christ ne juge pas les choses comme nous les jugeons. Nous sommes à la page 5 maintenant du Polycopier, chapitre Saint Matthieu, chapitre 11 à 15. Voyons, chapitre 11, versets 20 à 24. Alors, il se mit à adresser des reproches aux villes dans lesquelles avaient été opérés beaucoup de ces miracles, parce qu'elles n'avaient pas fait pénitence. Malheur à toi, Chorosaïn, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles auraient fait pénitence dans le sac et dans la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capharnaüm, t'élèveras-tu jusqu'au ciel? Tu descendras jusqu'à l'enfer, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait peut-être encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Mais encore une fois, ce n'est pas en assistant au miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, en applaudissant à tout rompre à ces miracles, qu'on va au ciel. Il faut que ces miracles entraînent un changement profond dans notre cœur. Donc le cilice, donc notre Seigneur Jésus-Christ va parler ici des pénitences dans le sac et la cendre. Le cilice donc est un instrument de pénitence. C'est comme souvent une espèce de chemise de crin qui grattait la peau et comportait sous l'habit normal. Et pour tout attention, je dis tout de suite à ceux qui m'écoutent sur Internet de ne pas se lancer dans des pénitences de ce genre sans l'accord de leur confesseur régulier, confesseur catholique bien entendu, parce que encore une fois vous pouvez vite tomber dans l'orgueil, hein, et tomber dans l'orgueil. Le cilice est le symbole de la componction, et l'austérité signifie la componction et l'austérité de la pénitence. La cendre, la poussière des morts. Rappelez-vous ce qui sera dit le jour du mercredi décembre. Memento homo quae pulvis est et in pulverem reverteris. Souvenez-vous, ô homme, que vous êtes poussière et que vous retournerez en poussière. Donc le cilice et la cendre sont mis en usage dans la pénitence, afin que les pointes du cilice nous rappellent ce que nous avons fait en péchant et que la cendre nous fasse réfléchir sur ce que nous sommes devenus par le jugement de Dieu. Et donc, utilisez bien cette grande fête de la semaine prochaine, même de cette semaine, en fin de semaine. Donc nous avons la fête le vendredi du 2 novembre, le jour des morts. Et utiliser cette fête du jour des morts pour méditer sur la mort en général, et surtout sur votre mort, sur notre mort. N'oublions pas qu'il y a trois sortes de morts. Il y a la mort physique, bon, c'est une mort à séparation entre le corps et l'âme, on va tous y passer. Mais il y a une mort bien plus grave qui est la mort spirituelle, c'est le passage de l'état de grâce à l'état de péché mortel. Et le pire, c'est la mort éternelle, le passage de ce temps à l'éternité, à l'état de péché mortel. Et donc, il faut que nous fassions pénitence, et ce temps liturgique de l'octave de la fête de la Toussaint nous rappelle la nécessité de prier pour les morts. L'Église accorde à tous ceux qui, pendant l'octave de la Toussaint, tous ceux qui vont dans un cimetière, si possible un cimetière catholique, c'est mieux, qui vont dans un cimetière et qui vont prier pour les morts, et bien l'Église accorde à cause de ces prières, une indulgence plénière pour une âme du purgatoire, selon la volonté du bon Dieu. Et donc, il faut vraiment, vraiment en profiter, s'obliger pendant cette octave du 1er au 9 novembre, de prier de bien, à partir du 2 surtout, du 2 au 9, de bien aller faire cette visite au cimetière pour demander des grâces pour les âmes du purgatoire. Qu'attendent des tas d'âmes du purgatoire, sont peut-être en train d'attendre, ils se réjouissent parce que ces fêtes du jour des morts arrivent, avec les trois messes du jour des morts, et attendent justement cette simple prière. Si vous vous rendez compte qu'il suffit d'aller dans un cimetière, de dire à notre Père, je vous salue Marie, gloire au Père, avec charité, avec esprit componction pour les âmes des fidèles de trépassés, des fidèles défunts, une âme qui peut se quitter le purgatoire et aller au ciel. Donc n'oubliez pas cela, faites-le pour les membres de votre famille qui sont peut-être au purgatoire, puis faites-le en général pour les âmes du purgatoire. Donc, ce cilice et la cendre donc, représentent l'austérité et la pénitence, mais nous rappellent que nous sommes des êtres pèlerins en passage de cette vie à une autre vie. Tyr et Sidon, dont parle notre Seigneur, malheur à toi, Chorosaïn, malheur à toi, Bethsaïda, car c'est les miracles qui ont été faits au milieu de vous. Avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles auraient fait pénitence dans le sac et la cendre. Donc Tyr et Sidon sont des villes de Phénicie. Tyr veut dire angoisse et Sidon chasse. Elles représentent donc les nations que le démon a prises comme un chasseur dans les détroits resserrés du péché, mais que le Seigneur Sauveur Jésus a délivré par son évangile. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, par la prédication de son évangile, va libérer les captifs. Et de quels captifs s'agit-il? Cette libération des captifs, ce sont les captifs spirituels, ceux qui sont enchaînés par le démon. À chaque fois que nous commettons une faute grave, malheureusement, nous enchaînons volontairement entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous enchaînons volontairement dans les chaînes qui sont tenues par le démon. Et notre Seigneur Jésus-Christ, surtout par le sacrifice de la messe, va libérer ces chaînes, détruire ces chaînes. Tyr et Sidon ont foulé au pied la loi naturelle seule, tandis que ces villes, à la transgression de la loi écrite, ont joint le mépris des miracles qui ont été faits au milieu d'elles. Et on voit cela comme des peuplades entières se sont mis à faire pénitence à la prédication d'un prophète. C'est le cas, par exemple, de Ninive avec Jonas. Et Jonas disait simplement, prêchait simplement la destruction de Ninive à cause des péchés. Et tout le monde s'est mis à faire pénitence. Depuis le roi jusqu'au dernier des manants, et même les animaux s'y sont mis. Et notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, n'a pas détruit la ville de Ninive justement à cause de la pénitence, surtout des grands de ce monde. C'est rare des fois un roi qui fait pénitence. Notre Seigneur a donc évangélisé les habitants de Chorosaïn et de Bethsaïde, afin que ceux qui devaient croire puissent embrasser la foi. Il ne voulut point porter la prédication de l'évangile aux habitants de Tyr et de Sidon, dans la crainte que ceux qui refuseraient de croire, devenus plus coupables par le mépris de l'évangile, ne fussent aussi plus rigoureusement punis. C'est évident que nous serons punis en fonction de ce que nous avons reçu. C'est la parabole des talents. Celui qui a reçu 5 talents doit en donner 10. Hein. Celui qui en a reçu 2 doit en donner 4. Donc posons-nous la question, est-ce que j'utilise bien les talents qui m'ont été confiés par le bon Dieu. Troisième paragraphe, après le verset 24 de Saint Matthieu chapitre 11. Le Seigneur avait prévu que les Tyriens, les Sidoniens, devaient plus tard abandonner la foi qu'ils auraient embrassée sur l'autorité des miracles opérés par sous leurs yeux. Et c'est par miséricorde qu'il n'a point voulu faire du miracle au milieu d'eux, parce que, en abandonnant la foi, et qu'ils avaient professé, ils se seraient rendus dignes de châtiments plus rigoureux que s'ils ne l'avaient jamais reçu. Encore une fois, c'est la parabole des talents. On peut encore dire, disent les pères, que le Seigneur prévoit avec certitude les grâces auxquelles il a daigné attacher notre délivrance. N'oublions pas, mes bien chers frères, j'en ai souvent parlé, j'en parle souvent en sermon, que beaucoup de grâces sont des grâces conditionnelles. Hein. Le bon Dieu fait dépendre le salut de beaucoup d'âmes de la réponse à la grâce de certains catholiques. Regardez par exemple Saint François Xavier. Si Saint François Xavier n'avait pas répondu à la grâce en se convertissant aux instances de son ami Saint Ignace de Loyola, eh bien, si Saint François Xavier ne s'était pas converti, Saint François Xavier, on dit, a baptisé de sa propre main plus d'un million d'âmes. Regardez tous ces grands prédicateurs, je pense à Saint Vincent Ferrier par exemple, ou tous ces grands saints qui sont partis sur les routes pour prêcher le règne social, le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, imaginez toutes ces âmes qui ont été converties. Saint François, j'ai oublié son nom. Il y en a un qu'on appelait même l'ange de l'Apocalypse. Saint Vincent Ferrier, pardon. Saint Vincent Ferrier. Donc on l'appelait l'ange de l'Apocalypse tellement il convertit ces dames. Mais évidemment, si je refuse de me convertir, plus j'ai reçu de grâce et je les ai refusées, plus j'ai refusé de grâce et plus je serai châtié pour ce refus des grâces. Et donc il faut penser un petit peu à toutes les grâces que nous refusons et aux conséquences de ce refus de grâce. Ça, nous le comprendrons certainement beaucoup mieux au moment du jugement général. Parce qu'au moment du jugement général, on verra pas simplement nos péchés propres, personnels, mais on verra aussi toutes les conséquences de nos péchés sur les autres âmes, ce qu'on ne voit pas forcément ici-bas. Donc notre Seigneur Jésus-Christ fait passer ses grâces, il pourrait donner ses grâces directement, mais dans bien des cas, il va faire passer ses grâces par l'intermédiaire de certaines personnes. C'est comme un tuyau, si vous voulez, d'alimentation, qui va faire passer la vie divine par ce tuyau. Mais si tuyau est bouché, comment voulez-vous que la grâce divine passe? Encore une fois, le bon Dieu respecte notre volonté propre. Certes, il pourrait convertir tout le monde d'un coup de baguette magique, mais il n'a pas voulu agir comme ça. On voit très bien que les apôtres, il y a un apôtre qui n'a pas pu convertir. Pourtant, il aurait bien voulu. Judas, il aurait mieux fallu pour cet homme qu'il ne fût point né. Notre Seigneur Jésus-Christ a respecté la volonté de Judas de refuser la grâce du bon Dieu. Et peut-être que Judas ne s'est pas converti parce que quelqu'un qui devait prier pour lui ne l'a pas fait. Donc, je répète, je relis ce quatrième dernier paragraphe de la page 5. On peut dire encore que le Seigneur prévoit avec certitude donc les grâces auxquelles il a daigné attacher notre délivrance. C'est la prédestination des saints. C'est-à-dire la préscience, la préparation des grâces qui doivent infailliblement sauver ceux qui doivent l'être. Les autres, par un juste jugement de Dieu, sont laissés dans la masse de perdition comme les habitants de Cyre et de Sidon qui auraient pu croire également s'ils avaient été témoins de nombreux miracles de Jésus-Christ. Mais comme le don de la foi ne leur a pas été accordé, les moyens de croire leur ont été refusés. On touche un sujet très très difficile à aborder, la prédestination. En fait, il faut bien comprendre que cette prédestination, elle existe de la part de Dieu, pas de notre part. Nous, on n'a pas, on peut pas se dire... je suis prédestiné, donc je suis sûr d'être sauvé. Non. Prédestination, ça veut dire que Dieu sait par avance où je vais atterrir. Dieu sait par avance si je vais être sauvé ou non. Et il va me donner des grâces aussi en fonction de tout ça, tout en respectant ma liberté. Et c'est le miracle, un signe de la toute-puissance de la grâce du bon Dieu mise en parallèle avec la toute-puissance de la volonté propre qui peut refuser la grâce du bon Dieu. Et donc Dieu, c'est l'enseignement de saint Thomas, Dieu qui relisait ce que nous avons déjà vu dans la somme théologique de saint Thomas, tout le magnifique traité sur la grâce, Dieu qui sait que telle personne ne va pas profiter de ses grâces, et va donner à ces personnes une grâce qui sera justement, qui sera une grâce qu'on appelle suffisante, mais qui ne sera pas une grâce efficace. Parce qu'il sait par avance que la personne en question ne va pas répondre à la grâce. Donc il ne donne à cette personne qu'une grâce, une grâce suffisante qui n'est pas une grâce efficace et qui est donc une grâce qui ne peut pas sauver cette personne par la faute de la personne. Là, on touche la liberté extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ sauve qui il veut, attention. Mais en même temps, il respecte notre volonté propre. Et donc, quand on parle de la prédestination, faire attention parce qu'on a vite fait tomber dans le fatalisme. Et le fatalisme, c'est pas de Dieu. Ça, c'est laisser ça aux protestants et surtout aux musulmans et aux hindouistes. Les hindouistes ont un fatalisme terrible, terrible. Donc, ils considèrent que c'est littéralement Dieu qui sauve directement et quel que soit ce qu'on fasse, on sera sauvé ou damné selon la volonté du bon Dieu. Dieu ne veut pas. Dieu, il veut. C'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Dieu, de volonté antécédente, veut le salut de tous les hommes. Mais de volonté conséquente, il ne sauvera que ceux qui acceptent d'être unis à lui par la vertu de charité. Dieu voulait le salut de Judas, c'était absolument évident. Mais malheureusement, Judas n'a pas voulu rester dans l'état de grâce, et alors qu'il aurait pu se précipiter aux pieds de notre Seigneur, comme Saint-Pierre l'a fait d'ailleurs, après l'avoir trahi trois fois, eh bien malheureusement, Judas n'a pas fait la même chose, et Saint-Pierre est au ciel et Judas est en enfer. Avançons en bas de la page 5, versets 25 et 26 du chapitre 11 de saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je vous rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents et que vous les avez révélées aux petits. Oui, Père, je vous rends grâce parce qu'il vous a plu ainsi. » Rappelons-nous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ : « Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Hein » Donc, c'est sûr que cette sagesse et cette prudence de la chair, ici dont parle notre Seigneur, cette sagesse, cette prudence de la chair, c'est le symbole des orgueilleux. C'est en haut de la page 6, voilà ce que disent les pères. « Sous le nom de ces sages et de ces prudents, on peut entendre les orgueilleux. » Comme notre Seigneur Jésus-Christ l'explique lui-même en ajoutant « et que vous les avez révélés aux petits ». En effet, que veut dire « aux petits » si ce n'est aux humbles, hein, bienheureux les humbles. Le royaume des cieux est à eux. Ceux qui refusent d'être petits devant Dieu deviennent insensés dans leur propre sagesse. Vous voyez, ceux qui se croient sages et prudents, de cette sagesse mondaine, cette prudence mondaine, on peut dire cette sagesse, cette prudence orgueilleuse, ne sont pas sauvés par cette prudence, cette sagesse, parce que c'est une fausse sagesse, c'est une fausse prudence. Donc, rappelez-vous ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, seuls les petits doivent venir à lui. Et si vous ne devenez pas comme un de ces petits enfants, vous ne posséderez pas le royaume des cieux. Vous voyez, notre Seigneur insiste encore une fois là sur la fausse sagesse, la fausse prudence des hommes orgueilleux qui ne mènent à rien du tout. Oui, ou plus exactement, qui mènent là où il ne faut pas, qui mènent à l'enfer. Si donc ils ont mérité pour cela que les mystères de Dieu demeurent cachés pour eux, craignez-vous aussi et appliquez-vous à rester petit, car ce qui vous a donné, c'est ce qui vous a donné droit à la révélation de ces mystères. Bienheureux les humbles. Bienheureux les pauvres en esprit. Qu'est-ce que c'est que cette pauvreté d'esprit? Cette pauvreté d'esprit, c'est l'humilité. Malheur aux orgueilleux. Soyons pas comme le pharisien. Relisez la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien qui se présente à l'autel sûr de son salut et qui se vante de tout ce qu'il a fait et qui ne sera pas sauvé parce que justement il lui manque l'essentiel, alors que le publicain au contraire qui s'est prosterné à genoux à la porte de l'église, que même pas rentré dans le temple, lui sera pardonné parce qu'il a l'humilité. Posons-nous cette question, est-ce que j'ai l'humilité? Ah mais je connais par cœur tous les pères de l'église. Oui, d'accord, mais c'est pas ça qui va vous faire aller au ciel. Connaître les pères de l'église, c'est une bonne chose, mais si vous n'avez pas l'humilité, ça vous sert à quoi? Cette connaissance des choses de Dieu vous amène à l'orgueil. Ça vaut quoi? Rien du tout. De la même manière donc que Dieu avait séparé les humbles apôtres des pharisiens orgueilleux sur la terre, il séparera les humbles anges de l'orgueilleux Lucifer et de ses troupes au ciel. Nous voyons ici la plénitude de la divinité nous donnant un Dieu parfait, Père et Seigneur, Père par clémence, Seigneur par discipline et sévérité, Père par son doux pouvoir, pour être aimé avec affection, Seigneur, pour être nécessairement craint, aimé parce que préférant la miséricorde au sacrifice, mais craint car ne tolérant pas le péché, aimé parce que préférant la repentance à la mort du pécheur, mais craint car n'acceptant pas le pécheur sans repentance. Quelle phrase splendide! Je la répète, elle est magnifique. Donc ce Dieu parfait, Père et Seigneur, Père par son doux pouvoir pour être aimé avec affection, Seigneur, pour être nécessairement craint, aimé parce que préférant la miséricorde au sacrifice, mais craint car ne tolérant pas le péché, aimé parce que préférant la repentance à la mort du pécheur, mais craint car n'acceptant pas le pécheur sans repentance. Là, on voit cette alliance extraordinaire entre la justice et la miséricorde. Dieu est juste avec tous les hommes. Avec certaines personnes, il pratique davantage sa miséricorde. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ va pratiquer plus sa miséricorde avec certaines âmes qu'avec d'autres? C'est là où on touche à la prédestination des saints. Il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ aime toutes les âmes, mais ils n'aiment pas toutes de la même manière, de la même façon. Notre Seigneur Jésus-Christ a beaucoup plus d'amour pour l'âme de la très sainte Vierge Marie que pour nous. D'un certain côté, notre Seigneur Jésus-Christ a d'un certain côté plus d'amour pour les gros pécheurs que pour un petit pécheur qui a moins besoin de sa miséricorde. Donc il faut méditer cette miséricorde et ne jamais, jamais tomber dans le découragement parce que cette miséricorde est absolument nécessaire au salut. On ne peut pas se sauver sans la miséricorde du bon Dieu. Donc le bon Dieu n'est pas venu pour la mort, pour les bien portants, il est venu pour les malades. Attention. Donc il doit être aimé parce que préférant la repentance à la mort du pécheur, mais craint qu'en n'acceptant pas le pécheur sans repentance. En quelque sorte, notre Seigneur Jésus-Christ souhaite qu'une seule chose, c'est utiliser sa miséricorde avec tout le monde. Mais malheureusement, dans certains cas, si vous ne voulez pas suivre notre Seigneur Jésus-Christ, alors à ce moment-là, il n'y aura plus qu'une seule chose, c'est tomber sur sa justice. C'est pour cela que le bon Dieu nous a donné la méditation de l'enfer. Pourquoi est-ce qu'il a donné la méditation de l'enfer? Parce que l'enfer est une création de la miséricorde du bon Dieu, c'est ce que disent les pères. Une création de la miséricorde infinie du bon Dieu pour nous, c'est le grand missionnaire du ciel, l'enfer. Des tas de gens sont sauvés à cause de l'enfer. Supprimer l'enfer, vous supprimerez beaucoup, beaucoup de gens au ciel. Supprimer la méditation de l'enfer et beaucoup de gens ne se sauveront pas parce que ils vont utiliser, si vous voulez, uniquement la miséricorde, refusant de voir la justice du bon Dieu et refusant de suivre sa loi. Il faut les deux, attention. Certes, il vaut beaucoup mieux suivre notre Seigneur Jésus-Christ par pur amour. Mais si vous n'êtes pas capable de suivre, si nous ne sommes pas capables de suivre notre Seigneur Jésus-Christ par pur amour, au moins suivons-le par crainte. C'est l'histoire d'un maman. Si vous voyez qu'il y a son petit garçon, pour me faire plaisir, vous allez obéir à votre maman. Bon, si vous voulez pas obéir à votre maman, je demanderai à votre papa de vous donner une fessée ce soir. Le petit gamin va obéir à la maman parce qu'il veut pas la fessée du papa. Certes, il aurait été préférable que l'enfant obéisse immédiatement à sa maman. Mais il vaut mieux obéir à sa maman parce qu'il a peur de la fessée du papa le soir que de ne pas obéir à la maman du tout. La loi demande les deux choses. Vous aimerez Dieu et vous le craindrez. Dieu propose une chose à celui qui le suit, mais une autre à ceux qui s'éloignent de lui. Car le monde fait la cour et a choisi les riches, les sages, les orgueilleux. Dieu, au contraire, choisit les pauvres, les ignorants, les faibles, et les fait riches, sages et prudents au-dessus de tous les mondains. Excusez, j'ai des fautes d'orthographe là. Je les corrige sur le polycopier. Donc il faut bien méditer cette phrase. Je répète cette phrase de notre Seigneur. Je vous rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Est-ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents que vous avez révélées aux petits? Est-ce que je suis un petit devant Dieu? Ou est-ce qu'au contraire, je suis plein de moi-même? Verset 27 du chapitre 11. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. Donc il n'y a pas d'opposition, attention, entre le Père et le Fils. Pourquoi? Parce que c'est la même divinité, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, mais il y a une trinité des personnes en Dieu, dans l'unité de la divinité, il y a une trinité des personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Rappelez-vous l'enseignement du mystère de la Sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes, égal et distinct. Égal parce que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais distinct parce que le Père n'est pas le Fils, n'est pas le Saint-Esprit. Le Christ nous enseigne donc en même temps qu'il est tellement d'accord avec son Père qu'il n'est pas possible d'arriver au Père si ce n'est par le Fils. Car ce qui scandalisait surtout les Juifs, c'est qu'ils leur paraissaient en opposition avec Dieu et ils s'appliquent de toute manière à détruire cette erreur. Donc il n'y a pas d'opposition entre le Père et le Fils. Ce que disent les pères, donc, le Père communique sa nature, il communique aussi la connaissance de lui-même et de tout ce qu'il a au Fils et par lui au reste des hommes. Lui qui veut donc attirer près de la vérité, de la grâce et du salut ceux qui sont en Dieu, le Père, et doit les attirer à travers lui pour qu'ils croient en lui. Car il est la voie, la vérité et la vie. Sa doctrine est celle de Dieu, le Père, et nous aurons accès au Père par le Fils. Notre Seigneur Jésus-Christ est donc le moyen d'arriver au Père. Mais il ne faut pas, en disant cela, croire qu'il y a une différence de nature divine entre la nature du Père et la nature du Fils. C'est la même divinité. Venez à moi. Alors vous avez cette magnifique phrase de cette finale du chapitre 20, du chapitre 11 de Saint Matthieu, qui est une merveille sur la charité de notre Seigneur à l'égard du pécheur. Venez à moi, verset 28, 29 et 30, chapitre 11 de Saint Matthieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous soulagerai. Prenez mon joug sur moi et recevez mes leçons, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quand nous sommes en désolation, relisons ces phrases magnifiques de Saint Matthieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui ployez sur le fardeau, et je vous soulagerai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ arrive avec sa croix. Lui qui est innocent porte la croix. Il va porter non seulement la croix pour nous, mais il va aussi nous aider à porter la nôtre de croix. Je suis doux et humble de cœur. Cœur sacré de Jésus, broyé à cause de mes péchés, ayez pitié de moi. C'est une magnifique oraison qu'on trouve dans les litanies du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Cœur sacré de Jésus, broyé à cause de mes péchés, ayez pitié de moi. Je pense qu'il faut apprendre à répéter cette prière magnifique, surtout dans les temps de tentation. Les tentations, répétez en boucle. Ce cœur sacré de Jésus, broyé à cause de mes péchés, ayez pitié de moi. Tentation continue, répétez au cœur sacré de Jésus, broyé à cause de mes péchés, ayez pitié de moi. Invoquez la Sainte Vierge aussi dans ces tentations. Ô Marie conçue sans péché, priez pour moi qui recours à vous. Donc le péché est un fardeau accablant. Le prophète Zacharie l'atteste lorsqu'il nous représente l'iniquité assise sur une masse de plomb. Et le psalmiste David donc le confirme par son exemple quand il dit « Mes iniquités se sont appesanties sur moi ». Là vous avez une phrase magnifique, je crois que c'est Saint Grégoire le Grand qui disait ça. « Voulez-vous devenir grand ? Commencez par les plus petites choses. Vous proposez-vous de construire un édifice d'une hauteur prodigieuse ? Occupez-vous tout d'abord d'asseoir les fondements à une grande profondeur. Plus l'édifice doit être élevé, plus les fondements que l'on creuse doivent être profonds. Or, jusqu'où doit s'élever le sommet de l'édifice que nous voulons construire ? Jusque sous les regards de Dieu. » Donc les fondations représentent la vertu d'humilité. Donc plus nous allons faire des choses qui sont grandes devant les hommes, et devant Dieu d'ailleurs aussi, puis il nous faut avoir d'abord les fondements de l'humilité. Si vous construisez une maison d'un étage, il n'y a pas besoin d'avoir des fondations très profondes, mais si vous voulez construire un immeuble de 10 étages, il faut que les fondations soient beaucoup plus profondes. Donc c'est le cas avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, là il insiste. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous soulagerai. Venez à moi, c'est qu'il faut prendre sur soi-même avec la grâce du bon Dieu, que le bon Dieu ne refuse jamais à ceux qui la demandent avec humilité, pour aller à notre Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, Dieu peut nous soulager. Et si nous ne voulons pas aller à notre Seigneur Jésus-Christ, si nous voulons aller à un autre Dieu, un faux Dieu, pour nous soulager, comment pour nous trouver soulagés? Comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, dans son Sacré-Cœur, va-t-il nous soulager? Et il faut vraiment comprendre que la dévotion au Sacré-Cœur, là, ce sont des phrases de Saint Matthieu, donc, versets 28, 29 et 30, qui sont un petit peu à la base de la dévotion au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous prenez des textes magnifiques de notre Seigneur Jésus-Christ à Sainte Marguerite Marie, donc celle qui a reçu les confidences du Sacré-Cœur. Ce cœur couronné d'épines pour tous les hommes. Donc soyons fidèles aux petites choses, mes bien chers frères. Et à ce moment-là, nous pourrons nous associer à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes en moi, si vous devenez justement vous aussi doux et humble de cœur. Et si vous êtes plein d'orgueil, comment voulez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ puisse s'occuper de nous? On va à la page 6. Comment le joug du Christ peut-il être plein de douceur alors que lui-même le dit plus haut, la voie qui conduit à la vie est étroite? C'est que ce sentier étroit dans le commencement s'élargit avec le temps par les ineffables délices de la charité. Combien plus sera-t-il donc vrai de dire que la charité rend facile le chemin qui conduit au vrai bonheur, lorsque la cupidité rend facile autant qu'elle le peut celui qui n'aboutit qu'à la misère. La loi exige les œuvres, l'évangile demande surtout la volonté, et n'est-elle pas à son effet, elle ne perd pas sa récompense. Donc, le problème, c'est que peu de personnes comprennent ça. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ, large est la voie qui mène à la perdition, nombreux sur ceux qui la prennent, hélas, étroite et resserrée, le chemin qui mène à la vie éternelle, et peu nombreux sont ceux qui la prennent, qui la suivent. Donc, la meilleure façon de faciliter notre cheminement sur ce chemin étroit qui monte vers le ciel, c'est la vertu de charité. Parce que la vertu de charité, si vous voulez, va nous permettre de comprendre davantage l'immense amour de notre Seigneur Jésus-Christ sur nous. C'est l'image classique qui est connue, qui est reprise par de nombreux saints de une personne qui suit, qui voit ces marques de pas sur la sur une marque de pas sur le sable mouillé au bord du rivage. Donc il y a deux lignes de pas, il y a ses pas, et puis à côté de lui, il y a les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis à un moment, il n'y a plus qu'une seule ligne de pas, il n'y a pas deux. Alors l'homme demande, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a plus qu'une seule ligne de pas, où est la deuxième? Et notre Seigneur Jésus-Christ explique là, il y a le passage dangereux. Il y a les sables mouvants, il y a des zones dangereuses, alors c'est moi qui vous porte. On ne voit plus qu'une trace de pas au lieu de deux sur le sable mouillé, parce que ce sont mes pieds que l'on voit, parce que je vous porte dans mon Sacré-Cœur. Et ayez cette dévotion au Sacré-Cœur et donnez cette dévotion au Sacré-Cœur à vos enfants. Dévotion au Sacré-Cœur, dévotion à ta Sainte Vierge Marie. Encore une fois, deux nécessités pour le salut. Nous allons terminer la page 7. Pour terminer avec la grâce du bon Dieu, terminer donc le chapitre 11 de Saint Matthieu. Donc, voyons un petit peu d'autres commentaires des pères de l'Église. L'Évangile nous commande ce qui nous est possible, page 7. C'est-à-dire ne pas se nourrir de mauvais désirs, ce qui dépend de notre volonté. La loi qui n'atteint pas la volonté punit seulement le fait pour vous détourner de l'adultère. Supposez qu'une vierge soit outragée dans une persécution, l'Évangile la recevra comme vierge parce que sa volonté n'a pas consenti au péché, tandis que la loi la rejettera comme ayant perdu son honneur. Il parle évidemment de la loi humaine. Moralement, apprenez combien grande et chère au Christ est la vertu d'humilité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous soulagerai. Prenez mon joug sur moi, car mon joug est doux et mon fardeau léger, c'est la vertu d'humilité. Apprenez de moi, non pas à créer un monde, ni à discuter avec subtilité de Dieu et de la Sainte Trinité, ni à faire des travaux herculéens, mais je suis doux et humble de cœur. Notre Seigneur Jésus-Christ pourrait dire, venez à moi parce que j'ai créé le ciel et la terre, venez à moi parce que par ma croix j'ai sauvé le monde. Non, venez à moi parce que je suis doux et humble de cœur. et vous trouverez le repos en moi de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. L'humilité est donc le secret de la paix, car il n'y a pas de repos pour l'esprit sauf dans l'humilité. Voulez-vous du repos? Embrassez l'humilité, une place humble, un office humble, une nourriture et un habit humble. Il est impossible pour l'orgueilleux d'avoir la paix de l'âme, car il désire toujours des grandes choses et il est souvent incapable de les atteindre. Alors il cherche pas Dieu, il cherche lui-même, il trouve lui-même, et en trouvant lui-même, il trouve la chute en enfer. D'autres textes ici magnifiques des pères sous la vertu d'humilité. L'humilité enlève de l'homme tous les travaux et les soucis. Elle renouvelle les forces, car elle est le médicament contre toutes les maladies et la santé de l'âme et du corps. Hippocrate croyait que les créatures sans bile vivaient plus longtemps comme le cerf. De même, les doux et humbles ont une bonne santé et vivent longtemps, car la douceur remet de l'ordre dans le caractère mental et les humeurs du corps, alors que l'amertume entraîne les désordres et les maladies. Cette humilité va entraîner la paix du cœur. L'orgueil, au contraire, n'est jamais en paix avec lui-même. L'humilité est donc la vertu du Christ qui lui est plus chère, au-dessus de toutes les autres, laquelle, en descendant du ciel, en ce bas monde, en se penchant vers la honteuse mort sur la croix, a manifesté qu'aucune autre vertu n'était plus illustre et merveilleuse dans sa vie et sa mort. Au contraire, l'orgueil est le péché de Lucifer, alors que l'humilité nous rend semblables au Christ. N'oubliez pas le cri de guerre du démon, « Non serviam, je ne servirai pas ». Donc c'est par l'humilité qu'on se rend semblable au Christ, c'est par l'orgueil qu'on se rend semblable au démon. Donc c'est par l'orgueil qu'on se met sur le chemin qui tombe vers l'enfer, et c'est par l'humilité qu'on se met sur le chemin qui mène à la croix du calvaire. Ceux, dit saint Augustin, qui ont appris du Seigneur Jésus-Christ à être doux et humbles de cœur font de plus grands progrès en prière et en méditation qu'en lisant et en écoutant. Le Christ joint la douceur et l'humilité, car elles sont comme deux jumelles ou une mère et sa fille. Et il y a des tas de textes des grands saints, des grands docteurs, parce qu'ils avaient compris justement cette vertu d'humilité. Saint Bernard a écrit des textes splendides sur l'humilité. De même que la méchanceté est la mère de la présomption, la douceur ne procède que de la véritable humilité. Le joug et le fardeau représentent la charge des dons et faveurs divins, car le fardeau de la loi qui est imposé est le don de la grâce, le don de la grâce dont l'observance parfaite apporte tous les autres dons dans l'esprit. Dieu nous charge quand il nous décharge, il nous charge de bénéfices quand il nous décharge de nos péchés. Que rendrai-je au Seigneur pour toutes les bontés qu'il m'a faites? Éloignez-vous de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. Et il faut nous présenter avec humilité, comme les apôtres, comme saint Paul. Seigneur, qui êtes-vous? Je suis Jésus que tu persécutes. C'est la conversion de saint Paul, jeté de son cheval par la force divine. Au contraire, pour les orgueilleux et les charnels, le joug du Christ et la loi de l'humilité, de l'abstinence, de la continence, de la mortification semblent être lourds et insupportables parce qu'il leur manque l'esprit. Qu'il ne pense qu'à la chair et aux choses charnelles. Donc, si vous voulez, si nous tombons dans l'orgueil, cet orgueil est comme un poids très lourd qui va nous entraîner vers le fond. Au contraire, si nous pratiquons la vertu d'humilité, cette humilité, c'est comme un oiseau qui peut voler vers le ciel. Donc, relisez souvent ces trois versets. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, je vous soulagerai. Verset 28, verset 29, prenez mon joug sur vous, recevez mes leçons parce que je suis doux et humble de cœur et vous retrouverez le repos de vos âmes. Verset 30, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc nous reprendrons mercredi prochain le chapitre, cette fois-ci nous en serons au chapitre 12 de saint Matthieu. Nous allons terminer par une prière. nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. De saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin et Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.